Est-ce que Dieu a la réponse ?
Je ne cherche pas de réponse, monsieur. Je... Désolé,
non.
Excusez-moi.
Non, vous excusez pas, je vais à l'église, c'est juste que... J'y suis pas allé récemment. Je croyais que vous avoir derrière moi avec ce classeur plein de plans, avec des armes de ce genre, c'était juste histoire d'être paré à tout, que c'était pour impressionner, et pour que le monde tourne rond, en voyant qu'on est prêt à réagir, personne ne commence une guerre nucléaire. C'est ça l'idée.
Vous l'avez dit vous-même. C'est du délire.
Pourtant, quelqu'un a tiré. Donc tout ça n'a pas de sens. Sauf si c'était une erreur.
Mais le génie est sorti de la lampe. Si on ne fait rien, les méchants verront qu'ils s'en tirent sans dommage.
J'ai écouté un podcast où le gars a dit qu'on a construit une maison remplie de dynamite. Avec toutes ces bombes, ces plans d'attaque, les murs sont prêts à s'effondrer. Mais nous, on vit toujours dedans.
Au cas où, vous voudriez riposter, monsieur. Attaque massive numéro 7 ou numéro 9. Pour en finir. Une fois pour toutes. C'est la meilleure chance qu'au moins certains de nous survivent.
Tony.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important?
C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, ton cul, c'est mon génie.
Cinema is the only art that kills what it's trying to preserve.
Choice. How would you define kill?
Anesthetize it, inject it with drugs that make it freeze and be inanimate and be yeah. Controllable. It's because they don't understand that it's not necessary. The low-budget people, Irvin Kershner and those, and John Cassavetes and all those people taught us that if you capture what's alive, that's more beautiful than if you capture what's dead.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Et merci à vous de nous écouter. On va revenir aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission finalement, sur le cinéma américain notamment, puisque la sortie du Paul Thomas Anderson ou du Catherine Bigelow ont fait beaucoup parler et tout le monde attendait qu'on dise enfin ce qu'on
en pense.
La France
entière.
Voilà, exactement. Mmh. On reviendra, si on a le temps, sur certains films français quand même qui sont sortis aussi dernièrement. On espère pouvoir revenir prochainement sur d'autres sorties rapidement. Le Paul Thomas Anderson, moi je pense démarrer par ça en fait. Donc c'était une bataille après l'autre avec DiCaprio et puis...
Chase Infinity, Benicio Del Toro.
Benicio surtout, qui est super. Ouais. Non, mais qui a joui d'une réception dithyrambique. C'était le film de la décennie. Grosso modo, c'était le film à voir absolument. Et nous, on enregistre l'émission justement plusieurs semaines après. Je trouve ça très intéressant d'enregistrer l'émission plusieurs semaines après. Qu'est-ce qu'il en reste finalement après cette réception critique qui a été terrible, en disant que voilà, sur les réseaux, c'était. Tu me diras ce que tu en penses, toi, en tant que président, directeur. On est en train d'enregistrer l'émission dans les bureaux,
dans les bureaux du directeur.
Du directeur de l'Arvor, le plus grand cinéma de France.
Voilà. Cigare, couple de coke. Et,
voilà. Y a et, tout. Mais par contre, il n'y a pas une seule affiche de film dans ton bureau. C'est terrifiant.
Comment choisir?
C'est vraiment, on est en train d'enregistrer dans une situation. moi, je me sens un petit peu pas à l'aise. C'est trop propre, trop blanc, trop. J'ai l'impression d'être dans une chambre d'hôpital.
Il y a plein de post-it quand même, avec plein de trucs.
Il y a beaucoup trop de post-it partout là. Mais bref, ça va pas. L'ambiance autour de nous n'est pas la meilleure. Mais on a vu tous les deux le film de Pitié. Et évidemment, aucun de nous deux, et toi y compris, bah, quand je dis aucun de nous deux, c'est toi compris, hein, ne pourra dire que c'est de la merde.
Non,
c'est pas possible. Il est impossible de dire que le film de Pitié, Une bataille après l'autre, est mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est, à aucun moment. Mais, bon, c'est pas loin de 3 heures de cinéma. Et je sais que j'ai vécu une situation particulière. Antonin étant président, directeur général, génial de l'Arvor.
CEO.
Et il avait prévu une séance pour moi qui n'a pas pu avoir lieu.
Ah, les impondérables techniques.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a reposé cette émission et j'ai pu assister quand même à une projection spéciale du film. De Pitié pour vous en parler, pour qu'on en parle ensemble avec Antonin. Et j'ai été très déçu. Le film est assez formidable en termes de mise en scène. Honnêtement, hein, moi je suis convaincu que ce type est un grand metteur en scène, qu'il est capable de faire des choses merveilleuses, mais que c'est un homme perdu, c'est un homme qui... qui a besoin sans doute d'avoir des convictions et il en manque. Il manque de convictions. Et donc, je ne reviendrai pas sur les conflits politiques qui ont pu avoir lieu sur le film. Mais honnêtement, en voyant le film, tu te dis le bonhomme n'a aucune conviction politique et ça ne l'intéresse pas. Et très bien. Moi, ça me pose aucun problème que ce type n'ait aucune conviction politique, en fait, et qu'il fasse du cinéma. Et donc, on voit du cinéma, et en effet, c'est un type qui est doué pour le cinéma d'action. Et je suis ravi de voir que le type, Paul Thomas Anderson, soit capable, en effet, de mettre en scène de vraies séquences d'action. Pour revenir rapidement, quand même, sur l'objet, on voit pendant une première partie des gens s'écharper et se distraire sur des conflits justement politiques ou guerriers et puis disparaître et essayer de disparaître en tout cas et puis une deuxième partie où les enfants l'enfante de ce couple qui se brouillait un peu la gueule essayait de fuir et là voilà plusieurs conflits mais qui honnêtement ne servent pas à grand chose. Enfin, tu me dis Antonin hein, si à un moment t'es pas d'accord avec moi, mais qui ne servent pas à grand chose, mais qui servent surtout en termes pour Paul Thomas Anderson à mettre en scène une grande course-poursuite qui m'a fait penser en fait à une course-poursuite de James Cameron. Très franchement, le film m'a fait penser à Terminator 2. En termes de construction dramatique avec différents acmés, plusieurs acmés, 3 acmés, tu vois. Et puis vraiment la course-poursuite, surtout sur la route, voilà, qu'on disait novatrice. Non, moi, ça me fait penser beaucoup à du James Cameron, mais du bon James Cameron, bien digéré, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris du plaisir pendant... le film dure 2h40, donc la deuxième partie, c'est au moins 1h30. Avec une longue course poursuite, avec des surprises, avec des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Et c'était très efficace. Le gros problème que j'ai eu, en fait, c'est avec la réception du film qui me le présentait comme le chef-d'œuvre des 10 dernières années, ouais, le grand film de l'année. Mmh. Bah écoute, t'es pas d'accord, je vais te laisser la parole juste après. Du coup, je finis, j'en ai pour 30 secondes. Moi, j'ai vraiment été entraîné par cette dernière partie en termes de films d'action, de voilà, Paul Thomas Anderson est très compétent pour faire ce cinéma d'action et m'entraîner. Et là, pour le coup, j'étais vraiment en tant que spectateur entraîné par ce film. J'étais très gêné par, j'étais embarrassé en tout cas par la position qu'il pouvait avoir. Je ne comprenais pas la position, mais ça ne m'a pas freiné en tout cas dans mon train de spectateur.
Ouais.
Et je comprends tout à fait en fait tous les spectateurs qui ont pu dire qu'ils trouvaient le film merveilleux. Vraiment, on en reparle du coup plusieurs semaines plus tard. Et on en a parlé avec des camarades à nous, notamment notre intérimaire Jules Topoc, qui a trouvé le film génial. Je comprends tout à fait, en fait, ce comportement. Le résultat, l'efficacité du film, moi, me satisfait totalement, en fait. Mais j'ai beaucoup de mal à... J'ai préféré, par exemple, le Dington de Ari Aster en termes de représentation du
marasme politique.
De ce que les États-Unis représentent aujourd'hui, en fait, de ce que le monde représente aujourd'hui, le Ari Aster Eddington, pour moi, représentait beaucoup plus le monde contemporain que ce film-là, qui avait quelque chose, en fait, pas d'intemporel, parce que, en fait, il est. Il correspond pas tellement à une mythologie ou autre chose. C'est des, je sais pas très bien à quoi il correspond, à quoi il se rattache, mis à part à une mouvance extrémiste, des extrémismes en fait, mais qui me parle pas particulièrement.
Ouais. Oui. Après, moi, je serais pas nettement plus précis en tout cas sur ce film, moi qui m'intéresse de toute façon évidemment beaucoup, comme tous les films de Pitié, sauf que je suis pas vraiment très convaincu par son cinéma de manière générale, mais par contre c'est vraiment typiquement le genre de cinéaste dont je vais voir tous les films parce que ça m'intéresse, mais je trouve qu'il y a toujours un côté un petit peu disproportionné entre la forme et puis ce que le film raconte, et que je trouve qu'il y a toujours dans ces films des points aveugles qui m'étonnent. Moi je sais que Licorice Pizza, moi c'est un film que je trouve assez hallucinant, que je trouve unanimement reçu comme quelque chose d'assez léger, mais moi je me dis c'est quand même le portrait d'une relation toxique qui ne dit pas vraiment son nom. Enfin, moi, c'est un peu ce que je vois dans le film, qui est un peu un des grands sujets aussi de Paul Thomas Anderson, des relations un peu toxiques. Hein.
Ce qu'il vit, lui, personnellement, a priori. Hein.
Ce qu'il vit, lui, tu veux dire
dans sa vie personnelle, en fait.
Bon, après...
Tu vois, ça a été le conjoint de Fiona Apple.
Oui. Ouais.
Elle a évoqué, elle... Les problèmes qu'elle a pu avoir.
Ok, ouais. En tout cas, bon, moi, qu'importe sa vie, en tout cas, moi, je trouve que ça se ressent. Mais ceci dit, on disait souvent que, de toute façon, au tout début de Paul Thomas Anderson, c'était aussi quelqu'un qui a eu. Il est typiquement la génération, la même que Tarantino, avec des gens qui ont vraiment œuvré à l'ombre des pères, quoi. Et c'est vrai que chez PTS, c'était vraiment ça, quoi. Il y a eu les ombres tutélaires de Robert Altman, l'ombre tutélaire de Scorsese, qui est très présente sur Boogie Nights, par exemple. Mais vraiment, on avait l'impression que le gars, effectivement, il a un côté très génie de la mise en scène. On sent que les films se tiennent vraiment plastiquement. Ils sont toujours relativement efficaces. Mais à un moment, tu te dis, mais vis ta vie, mon bonhomme, quoi. Enfin, trouve ta voie. Moi, j'ai l'impression que au fur et à mesure, normal, il vieillit. Il y a un truc où sa voix, non pas qu'il l'ait spécialement trouvée, ou éventuellement, peut-être pour les admirateurs, ils vont... Même moi, après, je vois que oui, il y a quand même une patte pitié, mais il y a quand même cette disproportion, je la trouve toujours. Et c'est vrai que moi, dans tous les films, je sais qu'un film qui est beaucoup aimé, moi, There Will Be Blood, moi, je me dis toujours, c'est vraiment ouais, La Limousine avec le moteur de deux chevaux, typiquement, c'est le film qui se donne des atours de chef-d'œuvre, où je trouve que, pareil, politiquement, ça va pas très loin dans la métaphore et un peu balourde au début. Je lui reconnais vraiment un talent pour poser des idées et tout ça, et puis les incarner plastiquement, mais qu'au final, il n'arrive pas à les travailler de façon dialectique, de façon un peu plus complexe, quoi. Là, moi, je pense que c'est aussi un film un peu particulier dans sa filmo, c'est-à-dire que c'est quand même son film probablement le plus cher, le film avec une star qui est vraiment la star qui peut mobiliser un gros budget. Et effectivement, la comparaison que tu fais avec Terminator 2, j'y avais pas pensé, mais je pense que ouais, c'est il y a vraiment de ça en fait, parce que il y a un aspect vraiment blockbuster. Moi, je me dis toujours voilà, qu'est-ce que c'est dans l'idéal du blockbuster, c'est Terminator 2. Dans le style course-poursuite, action non-stop et tout ça, là il y a un peu de ça. Et au final, on pourrait, si on voulait vraiment creuser et aller plus loin, y trouver aussi des résonances aussi politiques, parce que dans Terminator 2, il y a aussi cette idée de groupement armé qui opère une sorte de résistance. Il y a aussi cette idée d'une femme qui est vraiment l'incarnation de la résistance, qui est Sarah Connor dans Terminator 2. Bon, moi, le film, moi, pareil que toi, mais en tout cas, je trouve que le film, il est assez imparable sur ce plan du spectacle, donc de l'aspect vraiment blockbuster, c'est-à-dire que c'est un non-stop action movie, quoi, hein, ça n'arrête jamais, c'est une longue course-poursuite de 2h40, au tout début, la première demi-heure qui n'est pas une course-poursuite, c'est tellement ramassé, efficace, ou même pas efficace, c'est pas vraiment le terme, mais il y a vraiment une volonté de raconter de la façon la plus dynamique possible, de ramasser des événements, et c'est assez brillant, quoi, à quel point il te pose des personnages, des situations, et voilà, mais ça c'est une demi-heure de film, puis après voilà, il doit y avoir 20 minutes de latence, et puis après la course poursuite commence, quoi, en fait, quoi. Et c'est vraiment ce truc là moi, je suis complètement d'accord avec toi sur la pauvreté politique un peu ressentie du truc, quoi, enfin de dans mon ressenti, où je me dis ouais, c'est daté,
c'est un décorum, le politique en fait dans le film est un décorum,
il y a un peu de, ouais, je pense que t'as un truc un peu décorum, mais ceci dit, en même temps ça m'a quand même un peu interpellé à quel point voilà le film, chose qui est assez rare dans le cadre du cinéma américain, valorise, même si c'est pas tout à fait le cas, totalement le cas, ou rend sexy le militantisme armé, en fait, le militantisme violent du groupe des French 75, ou je sais plus quoi, au tout début, le groupement armé, donc c'est-à-dire vraiment une branche politique plutôt proche extrême gauche, et puis vraiment proche du terrorisme, hein, tout à fait. Et ça, je me dis putain, c'est quand même assez fou de le valoriser à ce point-là, ou de le rendre un peu sexy. Et parce que Fred, en général, moi, les films de gauche américains, il y a pas vraiment ça. On opère au sein même du système quelque part, quoi. Et on n'opère pas en parallèle, ou c'est très rare. On avait consacré un peu une émission là-dessus. Les films qui se consacrent à des groupements dissidents socialistes ou d'extrême gauche et tout ça, c'est plutôt assez rare. Mais ceci dit, enfin, le caractère sexy, moi, je regarde le film, je prends du plaisir, et je me dis c'est encore un film de Paul Thomas Anderson où il va pas m'en rester grand chose, parce que au final, il y a rien qui m'accroche, où je me dis tiens, il y a un truc qui gratte, quoi. Je me dis tiens, ça glisse, c'est formellement somptueux, ça m'emporte, dans ce en tout cas que je préfère de Paul Thomas Anderson, ça m'emporte, mais voilà. Mais le côté, je sais que ça, j'ai lu quelques textes là-dessus sur le caractère sexy du truc. Ça, c'est un truc que je ne m'explique pas, que je trouve vraiment très étonnant comme idée, qui vient peut-être de Thomas Pynchon, dont le film est adapté, qui a ce caractère vraiment très sexuel du film, surtout dans sa première partie, hein, le côté du personnage du bad guy incarné par Sean Penn, qui se fait mettre en érection par l'égérie, qui est une sorte sorte de, bah ouais, que d'icône totale de passionnariat gauchiste, militante et activiste, de mettre le film sur un terrain sexuel aussi rapidement, je me dis tiens, c'est une drôle d'idée, ça vient peut-être de Pynchon, c'est assez opérant. En termes spectaculaires, parce que en fait ça mobilise en fait ce truc du désir ou qui fait que bah, en tant que spectateur on est happé. Pour moi ça crée des images hyper fortes parce que le personnage de Perfidia Beverly Hills, là, c'est juste un personnage, tu te dis, mais c'est hallucinant, quoi. Enfin, il est hyper iconique. Dans une moindre mesure, sa fille aussi, qui devient l'enjeu du film parce qu'elle se fait enlever, eh ben, est aussi assez iconique quelque part dans la façon dont il la filme. Il y a une sorte de. En tout cas, c'est les deux personnages qui sont regardés de loin comme des sortes de statures. Là-dessus, en fait, il y a encore même plein de choses à dire. Ce que tu dis, lui, c'est vraiment, enfin, P.T.A., c'est vraiment le cinéaste de la masculinité, quoi. Enfin, c'est même presque pas pour rien que
il la remet en question, en tout cas.
Il la remet en question, mais c'est vrai que c'est très étrange et ce serait un film à revoir même aujourd'hui. Magnolia, tu dis le Tom Cruise dans Magnolia, c'est vraiment les masculinistes, quoi, qui aujourd'hui occupent un peu un terrain assez important culturellement. Bah oui, il y a déjà ça dans Magnolia qui date fin 90 début 2000.
99.
Et là, tu dis, bah oui, il y a vraiment ça, quoi. Mais ceci dit, dans son cinéma, le point de vue, de toute façon, il est masculin, il ne s'intéresse qu'aux hommes principalement. Je n'ai vu que le
Magnolia, il a plusieurs personnages. Hein, justement,
il y a plusieurs personnages, mais c'est que des mecs. Hein,
ah bah non, il y a Jennifer Moore.
Julianne Moore, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, ouais.
Je te laisse finir, je reprendrai après pour...
Mais c'est, enfin, après, ouais, je balance des idées éparses parce que je me dis, le film est... À la fois, moi, me pose pas mal de questions parce que je me dis, au sortir du film, clairement, je me suis dit, bon, bah, je l'aurais oublié. Et en fait, après, et j'ai pas du tout eu l'occasion d'aller le revoir, mais je veux dire, quand même, les images de la nana avec le ventre enceinte qui tire à la mitrailleuse, je me dis, oh, putain, s'il y a vraiment que le cinéma américain qui peut produire des images aussi iconiques, fortes, c'est presque. Même pas, enfin, j'ai envie de dire comic book, même si même dans le comic book il y a pas cette image là parce que c'est une image qui est saugrenue vraiment et qui trouve pas sa place dans un réservoir iconique de films de super-héros. Mais et en fait, il y a ça, il y a ce truc très iconisant ou je sais pas quoi là, de créer du désir sur des figures vraiment très activistes, voilà, et en même temps. Le film est plutôt quand même un mood plutôt très comique aussi, quoi. C'est-à-dire que le personnage de Caprio est clairement une sorte de mec un
de
peu
Lebowski,
de stoner, enfin voilà, c'est oui, un truc, c'est... un peu un mec qui est sous drogue. Le film a cette caractéristique aussi d'être constamment un peu halluciné, un peu comme ce qu'il avait pu faire dans Inherent Vice, que j'avais détesté, que j'ai essayé de revoir, qui est mieux que dans mes souvenirs, mais quand même un peu chiant, donc je suis pas allé jusqu'au bout. Mais il est assez fort pour créer une sorte de
base. Est-ce que t'es frère Cohen, Lebowski, en fait, voilà.
Ouais, il y a un peu de ça. Mais je pense que ça, moi, je suis pas du tout. D'ailleurs, j'ai jamais lu aucun Thomas Pynchon, mais je pense que il y a ça devait être, peut sûrement être une référence. En tout cas, ça doit obéir à un courant littéraire dont se sont inspirés les Cohen aussi pour faire leurs films. Mais clairement, il y a cette idée de mettre côte à côte des cultures, des visions, des façons de penser, que ça soit les alt-right américains, les gauchistes, les hippies, machin, et puis de les faire se croiser, et que des gens qui parlent la même langue mais absolument pas le même langage, et de créer un peu des situations absurdes avec ça. Je pense que ça, c'est un truc qu'il y a dans The Big Lebowski qu'on va retrouver ici. Il y a une vraie joie, toute la séquence avec Del Toro, avec les wetback, là, c'est hallucinant, leur organisation. Il y a des chocs culturels, même le fait de Leonardo DiCaprio qui arrive, qui essaye de parler le même langage que Perfidia Beverly Hills, mais qui arrive pas vraiment, qui est un petit peu en dessous. Bah, ça crée de l'humour avec ça. Ça, c'est assez drôle et intéressant. Et ça participe du dynamisme et de la séduction du film. Mais c'est vrai que, bah, politiquement, je me dis, où le film se place? Bon, effectivement, ouais, ce understate, là, ou je sais pas quoi, là, de la alt-right, là, les tarés que veut absolument intégrer Sean Penn, bah oui, c'est intéressant, et on sait que ça peut correspondre à une certaine, à un vrai complot, entre guillemets, de gens qui veulent vraiment cette fascisation de la société. Mais bon, en tout cas, je me dis, le film se... est perdu, en fait, je pense, entre la volonté de créer du désir pour l'envie de faire la révolution, de créer des figures désirables de la révolution, la volonté aussi d'en faire un petit peu de l'humour, de se moquer un petit peu du folklore, enfin, de la scène du mot de passe et tout ça, de Caprio, il y a un peu de ça. Et aussi, et du coup, je trouve que le film ne déploie pas vraiment déploie pas vraiment la dialectique entre les deux. Quoi. J'arrive pas à voir vraiment j'ai envie de le revoir, donc peut-être que je changerai d'avis quand je le reverrai. Mais je me dis, ça va me faire comme souvent avec les films de Pitié. Je me dis, oh putain, c'est quand même des films de gamin où tout ça se passe dans sa tête et c'est un gamin qui joue avec son train électrique, il est très content.
J'ai grosso modo, je vais faire court, hein, mais les mêmes sentiments que toi par rapport à Pitié, au fait que de toute façon, et là le problème est qu'il s'intéresse en fait à un sujet politique ou à un sujet culturel en tout cas, alors que finalement en fait son vrai grand problème c'est un problème psychologique. Pitié visiblement et a un côté psychotique, en tout cas s'intéresse à des personnages psychotiques, et Thomas Pynchon en est Pinchot, en effet, comme toi, j'en ai jamais lu en fait. Par contre, moi, pour m'intéresser un petit peu au sujet, j'avais relu un petit livre que je conseille à tout le monde, enfin, pas à tout le monde justement, c'est là où je voulais en revenir. Mais suite à ce film, en me disant, bah écoute, c'est vraiment pas son sujet, la politique, ni l'écologie, ni l'écoterrorisme, ni le militarisme, en fait, le PTS, c'est pas son problème, en fait. C'est pas ça qui l'intéresse. Tant mieux, il fait du cinéma, en fait, il fait autre chose. Le problème, en effet, c'est que là, d'un coup, il rentrait dans un créneau qui était monopolisé par plein de gens de tous les bords et que chacun de quelque bord qu'il soit allait forcément reprendre le machin. Là, d'un coup, il fait du cinéma, il est efficace, tant mieux pour lui, tant mieux pour les spectateurs qui l'apprécient. Mais moi, je m'étais remis à lire un bouquin et je le conseille à tout le monde, sauf ceux qui auraient tendance peut-être à avoir envie de péter des SUV. C'était « Comment saboter un pipeline » qui avait été adapté au cinéma, en fait, il y a 2-3 ans. C'était 2022-2023.
Hein, le film est sorti l'année dernière.
En France. Mais
oui,
bon,
en France.
Voilà.
Toujours un train de retard, la France.
Mais c'est pas tellement le film que j'invite les gens à voir, parce que le film n'était pas réussi par rapport au bouquin. Le bouquin, et c'était Andreas Malm qui l'avait écrit, c'est sorti en France, hein, c'était traduit, et Comment saboter un pipeline. Et c'est assez fascinant, mais par contre, en effet, j'émets de grosses réserves pour des gens qui pourraient avoir tendance à avoir envie de juste faire un petit effort pour que le pays aille mieux, que le monde aille mieux, parce que au bout de 30 pages, t'as envie de foutre en l'air tous les SUV que tu croises. Le bouquin est rempli d'arguments merveilleux, en fait, pour te donner envie de foutre en l'air, en fait, tous ces gens qui foutent en l'air le monde. Mais c'est l'intérêt aussi de ce film, c'est de m'avoir donné envie, ce bouquin que j'avais sous le coude depuis très longtemps, en fait, de le relire. Et rien que pour ça, en fait, et en me rendant compte que Pitié, c'est pas son sujet, clairement. De toute façon, il est au-delà de ça, parce que lui, il m'a fait penser plutôt à un Wes Anderson, tu vois, ou à un cinéaste de ce genre qui est un cinéaste...
un peu sous cloche, quoi.
Sous cloche, ouais. Même si là, en effet, on a affaire à un cinéaste qui nous propose un grand cinéma d'action. Moi, j'avais envie qu'il fasse un remake de Speed.
Ouais, ouais. En fait, il y a de ça, mais je pense que c'est presque peut-être le sujet du film. Moi, je sais que dans les images qui me revenaient, moi, je trouve que la fin est superbe, par exemple. La fin du film, elle est vraiment très, très belle. Parce que c'est le moment où sa fille, ils sont revenus chez lui, et puis lui, il est encore en train de fumer du shit, et puis de vivre sa vie de bourgeois de gauche, quoi. En gros, quoi, de ruminer ou je sais pas quoi, et puis elle part en manif, quoi,
et reste là à attendre, et puis va faire ta vie, de manifestante.
Mais, ouais, ouais, voilà. Mais c'est assez un. C'est, je sais qu'en fait, des réflexions ont été faites, et moi, effectivement, en tant que bon mâle blanc, ça ne me saute pas à la gueule, mais c'est clair et net que c'est assez hallucinant de voir qu'un film où il y a des personnages féminins aussi forts, ils soient aussi vite éjectés du plan, quoi. C'est-à-dire que là, le personnage de Perfidia Berlitz, tu dis, mais c'est incroyable. À quel point le personnage il est en 10 minutes, tu dis c'est vraiment incroyable, et directement le film l'éjecte. Il s'avère qu'en plus le film fait en sorte que ça soit une balance, donc ça discrédite un petit peu la nature un peu iconique, en tout cas pure de la figure ou du personnage. Et après la fille est plutôt agie plutôt que agissante, quoi. Elle est kidnappée et point barre. Elle ne devient agissante qu'à la fin. Donc en fait d'un point de vue de genre, le film il est à nul et non avenu. Mais ceci dit, on pourrait dire que, et je pense que ça serait probablement ce que dirait PTA aussi, hein, de dire oui, mais moi je me place du point de vue du mec, et le mec, clairement, les mecs dans le film sont pas mieux traités, quoi. Que ce soit Sean Penn qui est une bite sur plat,
DiCaprio. Les sont vraiment des personnages lamentables. Ouais. Le seul personnage qui a sauvé, c'est celui de la fille de DiCaprio.
Qui est super, mais ceci dit, elle n'a pas, c'est pas elle le film, c'est quelqu'un qui est satellitaire et qui est quelqu'un qu'on regarde, mais qui n'est pas agissante, qui ne sera agissante qu'une fois le film fini. Et c'est assez drôle de voir que quand même, c'est quand même le portrait encore d'un mec qui est en perdition. Et c'est vrai que le personnage de Caprio, tu te dis, si
est-ce
on se pose la question,
dans les autres films
est-ce que c'est un mec qui est vraiment mu par un sentiment de révolutionnaire et tout ça, tu te dis, oh, pas vraiment. Non, en gros, il est arrivé parce qu'il était fan d'explosifs, et puis après, il fume du crack, il est réveillé par sa cellule, et aussi parce que sa cellule familiale est en danger, donc il agit. Mais au final, c'est pour ça que politiquement, tu dis, si le discours politique, à travers ce qu'il passe par son personnage principal, c'est nul, parce qu'en fait, lui, c'est pas du tout son moteur. Enfin, le moteur du film, c'est encore une fois la cellule familiale de la recomposition.
Ce que tu retrouves dans les films de PTA, et moi je le rapprocherais énormément en fait des films de James Gray par exemple, c'est la crise en effet, comme tu le disais, de la cellule familiale et surtout de la figure paternelle. Ils font partie, PTA comme James Gray par exemple, d'une génération de cinéastes qui sont en perdition d'une référence ou d'une influence,
ouais.
de cinéastes, de pères cinéastes en fait. Les seuls qui pourraient avoir, ça serait en effet, et PTA l'a cherché pendant longtemps, tu as cité Altman, on pourrait citer Coppola, mais ils ont ça. Et dans leur cinéma, moi en fait, je retrouve énormément ça en fait. Et dans leurs histoires, pour ça que j'en parle, je retrouve énormément ça en fait. C'est-à-dire que des types qui sont constamment à la recherche en fait d'une figure paternelle, d'une figure non pas autoritaire, mais en tout cas d'une vraie influence en fait, qui
ça,
aujourd'hui
ça court en tout cas dans tous ces films.
Et James Gray a la même situation. Pour ça que je les rapproche énormément, même si en termes de style. Ils pourront l'un ou l'autre aller chercher du côté d'un Kubrick ou d'un Altman ou d'un Scorsese
ou d'un Coppola.
Des figures quand même importantes, c'est-à-dire qu'on a affaire quand même à des figures stylistiques ou en tout cas théoriques très importantes, et en fait ils sont en manque, il y a un vrai manque, et encore une fois dans ce film je ressens ce manque en fait. Moi c'est quand je vois le film Une bataille après l'autre, je ressens ce conflit-là encore une fois. avec cette envie d'afficher un style particulier. Et on va parler juste après de Bigelow. Mais Bigelow, j'ai le même problème avec elle. Je pense qu'elle a, elle a le même souci. Il faut trouver un style, il faut trouver un mode opératoire presque de cinéaste pour pouvoir s'affirmer. On enchaîne avec Bigelow. Bigelow, par exemple, et on pourra revenir après sur Pitié. Bigelow, par exemple, donc son dernier film sort sur Netflix. C'est pas la seule. Il y a aussi Del Toro qui sort son film sur Netflix en ce moment. On en parlera dans une prochaine émission, mais je pense qu'il il a le même mais il a le même problème. Mais il s'agit en fait d'afficher une personnalité de cinéaste. Ce qui est très, je pense, hein, pour un cinéaste, de plus en plus compliqué aujourd'hui. PTA, comme James Gray, affiche cette problématique clairement dans leur cinéma aujourd'hui. Ils se posent cette question de comment est-ce que je peux afficher un style, un genre, enfin moi, m'affirmer en tant que cinéaste aujourd'hui. Comment est-ce que je peux affirmer un style, en fait ? C'est un truc tout con. Comment tu fais pour, en tant que cinéaste, affirmer un style ? Ça va être, en effet, via une esthétique de la lumière, des couleurs, choses comme ça, ou peut-être, justement, par des mouvements de caméra. Bigelow, c'est clairement ce qu'elle fait. Bigelow, dans son dernier film, alors elle s'affirme via une construction, elle s'affirme pas via la construction justement, parce que sa construction, elle se repose sur quelque chose qui est assez lointain, c'est la construction de Kurosawa. On revient vers Kurosawa, comment il s'appelle ce film où,
Rashomon.
Vers Rashomon.
C'est pas vraiment ça. Hein.
Non, justement, c'est pas exactement ça. Du coup, elle reproduit, elle, un style qu'elle a depuis déjà 20 ans, avec une caméra tremblotante à la Paul Greengrass, et puis des zooms et des zooms qui sont insupportables. Enfin, moi, je n'en peux pas, peu plus. Je supportais pas ça dans Des Mineurs ou dans tous ses précédents films. Je ne supporte pas la caméra de Catherine Bigelow. C'est un style, mais c'est un style qui est forcé et qui moi, me paraît...
En plus, mais daté. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment daté. Daté. En fait,
Mais
ce truc-là...
il s'agit d'affirmer un style. C'est-à-dire que comment aujourd'hui des cinéastes américains, même des cinéastes contemporains, en fait, vont pouvoir affirmer
un
style.
Moi, je ne pense pas que ça soit une difficulté. Moi, je pense que c'est leur seul échappatoire pour pouvoir exister. Parce que, en fait, Bigelow ou PTA, ou Tarantino dans une moindre mesure, parce que lui, c'est. Ou Nolan, ou Villeneuve. Voilà. C'est pas que c'est. En fait, c'est des gens dont les films sont. C'est fait partie des gens dont les films sont vendus sur leur propre nom, chose que n'a jamais fait le cinéma américain. Au bout d'un moment, Coppola, son style, il apparaît dans Le Parrain. Le Parrain, il n'est pas vendu sur le nom de Coppola.
Non, Coppola, Apocalypse, il s'adapte au sujet qu'il a.
Et pareil pour même au Scorsese, si on parle un petit peu de ça.
Je penserais plus, moi, Clint Eastwood, qui est un type classique, clair-obscur, et qui a un style, on reconnaît un Clint Eastwood.
Mais maintenant, on le reconnaît maintenant, mais maintenant, ce qu'on va dire, c'est que oui, c'est Clint Eastwood va être un héritier des classiques, c'est-à-dire qu'il a un style relativement invisible, mais sauf que maintenant, ce style invisible du classicisme hollywoodien, il est relativement visible parce que c'est un style qui n'est plus du tout employé. Donc voilà. Mais je pense que maintenant, le cinéma américain est ainsi fait que pour ces auteurs-là, il s'agit vraiment de s'affirmer en tant qu'auteur s'ils veulent exister un tant soit peu. Parce que s'immiscer dans une machinerie hollywoodienne en infléchir, agir en contrebande, hein, tout simplement. Hein. Le truc, c'est plus possible. C'est un modèle qui n'existe plus. Maintenant, Netflix va chercher Catherine Bigelow, il lui fait un chèque, et puis Catherine Bigelow, c'est suffisamment assez connu pour ça. PTA, c'est une anomalie, malheureusement, qui peut-être se reproduira plus que Warner lui file 120 millions pour faire un truc comme ça. Les Scorsese et compagnie, ils sont suffisamment installés pour que ça tienne. Vaille que vaille, mais avec des plateformes. Moi, je trouve que c'est pas c'est pas, enfin, le truc, moi j'ai l'impression que ça fait au moins quelques années où vraiment ce truc là de mettre l'auteur en premier lieu dans le cinéma américain, c'est presque encore pire qu'en France, quoi. C'est que là on est vraiment dans un cinéma de super auteur, quoi, où il faut vraiment mettre sa patte d'auteur avant même ce qu'on de se plier à la nécessité du film qu'on veut mettre en scène, quoi. Donc pour moi, après Bigelow, là moi je me dis plus que les mouvements de...
donc Bigelow, elle vient de faire un film, parce qu'on n'a pas dit, House of Dynamite, qui évoque, comme le faisait Docteur Follamour ou Point Limite, de lui mettre une attaque nucléaire sur les États-Unis, et en fait elle reproduit trois fois la même histoire, ouais, mais avec trois points de vue différents, trois personnages, ouais, différents en tout cas, la même histoire, à savoir, il y a une attaque nucléaire, on ne sait pas d'où elle vient, on va tous crever, comment est-ce qu'on réagit, ouais, grosso modo, comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, et voilà, c'est ça, c'est trois fois de suite la même histoire, avec le président, avec des gens qui travaillent sur le... Je sais même pas quoi d'ailleurs.
Ouais, je sais plus quelle
les
cellule.
Les deux autres, j'ai vraiment oublié les trois cellules, en fait.
De toute façon, le film, enfin moi, pour moi, je n'ai absolument pas vu l'intérêt de ce film. C'est vraiment le truc que j'ai regardé. Je me dis, putain, mais c'est incroyable, je vois pas. Mais sur plein de côtés, parce que quand tu citeras Rashomon, tu vois, là, du coup, c'est pas opérant, parce que Rashomon, l'idée de Rashomon principale, c'est de dire, c'est trois histoires de trois points de vue, et du coup, chaque point de vue apporte un éclairage nouveau. Là, c'est pas du tout le cas. C'est exactement la même histoire qui est racontée, mais de trois points de vue différents.
Mais qui
n'altère pas le point de vue. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun moment, il y a une dialectique qui se crée entre, bah voilà, tiens, ah, oui, c'est vrai que si on prend ce point de vue-là, c'est
même
pas envisageable.
Mais c'est nouveau à ce niveau-là, presque, en fait, parce que justement, on produit trois fois la même histoire.
Pour
et
moi,
en fait,
pour moi, c'est pas nouveau.
Ça répète la même chose trois fois de suite. Hein.
Moi, quand je vois le truc-là, je vois un truc très vieillot, mais vraiment vieillot dans le sens où, au final, bah, le seul truc, c'est qu'effectivement, on raconte trois fois la même histoire du même truc. Mais ça revient à la même chose que de se dire, bah tiens, il y a un épisode de série où dans un épisode de série, on sait bien comment c'est construit. Si une série suit trois personnages, et ben les 20 minutes d'une série suivent un personnage, après on passe 5 minutes à l'autre, puis après à l'autre, et c'est la même histoire, mais avec on dispatche le point de vue, mais dans des lignes narratives un peu parallèles, et ça n'éclaire en rien une sorte de complexité de l'histoire. C'est juste que ça la complexifie à mon sens souvent inutilement, parce que bah voilà, on rajoute du récit, du romanesque et tout ça. Là pour moi c'est ça, enfin, et je vois, et en termes de mise en scène c'est pareil, je me dis, ah là là, c'est terrible, c'est vraiment vieillot, c'est un truc qui a été plus ou moins initié, on va dire, par Michael Mann quelque part, par révélation, qui lui-même s'inspirait effectivement d'un truc qui est de 13 années 70, de ces méthodes de tournage un peu unbated, genre je suis au cœur de l'action.
Par exemple, Peter Watkins, qui vient de nous quitter, en fait,
oui, tout à fait,
qui avec ça, Punishment, ouais, Park, créé, oui, ces faux documentaires.
Complètement.
En fait.
Mais sauf que c'est pas... Enfin, Peter Watkins, évidemment, c'est important de le citer parce qu'il vient de nous quitter, mais c'est pas les mêmes trucs qui est visé. Moi, je sais que, par exemple, Révélation de Michael Mann, moi, je me rappelle, ça m'est tellement... Enfin, le film, déjà, j'avais trouvé ça fantastique quand je l'avais vu, puis après, tu regardais toutes les séries qui arrivaient après, et notamment 24 heures chrono, auxquelles on pense beaucoup quand on regarde House of Dynamite. Bah oui, clairement, la mise en scène de Michael Mann était émulée dans 24 heures chrono, à tel point qu'il y avait même des morceaux de musique de Révélation qui étaient repris dans 24 heures chrono. C'était, et ça a après un peu irrigué tout le cinéma américain. Évidemment, j'ai pas revu Démineur depuis longtemps, mais clairement, oui, c'était un peu dans la mouvance de Paul Greengrass aussi, qui faisait les Jason Bourne et puis les Vol 93 et tout ça, qui disait, bah tiens, voilà, cette nature documentaire du cinéma, il faut la remettre au truc, parce que bah il y a le 11 septembre et qu'on se rend compte que bah la mise en scène documentaire, elle est encore plus forte que la mise en scène cadrée, on va dire, pensée. Mais je me dis, et puis, putain, là on est en 2025, faut inventer un autre truc, quoi, c'est pas possible, quoi. Et surtout que quand on prend un plan, un truc avec trois points de vue, où tu dis à l'heure de où la post-vérité et tout ça, bah chacun qui est dans sa chapelle a pensé selon son propre point de vue, tu dis bah oui, Rashomon pourrait avoir effectivement une actualité de reprendre Rashomon aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant de reprendre ce truc-là, parce qu'on est un peu là-dedans, quoi, avec personne, chacun qui pense suivant sa lorgnette. Là, pour moi, non. Donc moi, je ne sais pas à quoi ce film sert.
Moi, honnêtement, j'aurais pu penser justement que le film, dans sa construction scénaristique, avait un vrai intérêt, à savoir de répéter trois fois la même histoire sans justement ajouter d'éléments particuliers à la narration et de répéter, mais qu'on passe justement d'un technicien au président américain et que en fait ça soit la même situation, si j'aurais pu y trouver un intérêt, honnêtement, de me dire voilà que 40 ans, 50 ans après Point Limite ou Docteur Follamour, on en soit au même niveau et que quelqu'un répète la même chose, finalement j'aurais pu trouver l'intérêt. J'aurais pu me dire, bah voilà, il y a quelqu'un qui nous rappelle, en effet, et Catherine Bigelow nous rappelle qu'on a toujours affaire au même problème et qu'il n'y a toujours aucune solution et que la seule finalité, en fait, c'est justement la destruction totale, en fait, et qu'il n'y a aucun échappatoire à cette situation, en fait. J'aurais pu accepter ça, j'aurais pu, si elle m'avait fait un film comme était capable de le faire au Ciné-Lumette, comme est capable de le faire encore Michael Mann aujourd'hui, j'aurais pu accepter ça. Le fait qu'elle reproduise en fait cette esthétique, moi, c'est ça qui me fout en l'air. Tu viens de le dire, cette esthétique qui ne sert à rien. Moi, c'est son esthétique à Catherine Bigelow et qui me gâchait déjà ses précédents films. Je suis convaincu que j'aurais pu adorer Détroit. Par exemple, et même Des Mineurs. Des Mineurs, c'est un film qui m'avait... C'était quoi ? C'était il y a 15 ans, Des Mineurs. Ouais, Des Mineurs, ça m'avait foutu en l'air. J'avais détesté ce truc parce que, justement... mais comme Del Toro a pu le faire, comme d'autres cinéastes ont pu le faire, et James Cameron continue aussi de s'extasier, d'utiliser en tout cas cet effet du zoom, de cette caméra tremblotante. Moi, sur Avatar, il y a des moments qui me foutent en l'air. Putain, comment tu peux encore continuer à exploiter, en fait, ouais, cette effet.
Après, parce qu'après, pour le redire, c'est très étrange, ce truc-là.
C'est un truc qui ne...
Ouais, c'est marrant parce que moi, cet été, est ressorti French Connection. Évidemment, c'est un film que je connais bien. Mais à le revoir, c'est vrai que c'est... J'avais presque peur, même si ça faisait sûrement pas très longtemps que je l'avais vu, au moins pas un minimum 10 ans, mais French Connection a une date pour ça, parce que c'est vraiment dans le cinéma américain ce moment où d'un coup le polar va être complètement régénéré par une mise en scène soi-disant documentaire. Caméra à l'épaule, pas d'éclairage, annexe. Et donc je me disais, oh, putain, ça se trouve, je vais y retrouver déjà tous les gimmicks qui font documentaire. Et en fait, quand tu revois French Connection, tu dis, c'est hallucinant, c'est hyper cadré. Tous les cadrages sont pensés, sont signifiants. Une vraie volonté de raconter quelque chose par les cadres. C'est pas uniquement se plier, la caméra n'est pas uniquement pliée avec l'éditeur, il faut absolument que je capte l'action et tout ça. Et c'est vrai que ces films-là, tu te dis, mais ils émulent une sorte de ils émulent le reportage unbated, ou quoi, genre reporter de guerre dans un truc. Tu te dis, mais
parce qu'il n'y a pas trop le choix aussi, en fait.
Mais c'est débile.
Pour de vrai, en fait. C'est-à-dire que caméra est vraiment faite en mode on pose la caméra dans la rue parce qu'on n'a pas le droit de filmer.
Oui, mais sauf qu'en fait, même dans French Connection, il n'y a pas ça. Enfin, je veux dire, le mec, il se dit, bah, de toute façon, en voyant le film, je me dis, mais non, mais il sait très bien que non. Tu vas pas. Il sait très bien que son film il est cadré, que les personnages, même s'il y a de l'impro et tout ça, il sait très bien où ils sont et qu'il y a une urgence dans le film qui est intacte, que tu peux regarder le film il est imparable, quoi. Mais là, dans ces films là c'est complètement artificiel, ça ne se repose que sur l'idée que dans l'œil des gens, dans le regard des gens, le pari qu'ils font, c'est de se dire le spectateur, à partir du moment où je bouge ma caméra, il va croire que tout ce qui se passe dans le plan est vrai. Mais c'est vraiment l'idée la plus con du monde. Et ça pourrait éventuellement marcher, j'ai envie de dire.
Ça marche pour Michael Mann, tu vois, quand il le fait, Michael Mann, sur Révélation,
ouais, mais,
ça fonctionne mais, super
mais
bien.
Chez, dans Révélation, c'est même pas aussi ça. Après, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais je sais que dans Révélation, si on dit que Michael Mann, c'est un très grand styliste, c'est aussi que voilà, chaque plan, cette façon éthérée de filmer, elle n'est pas là uniquement pour émuler la façon de filmer d'un documentariste qui serait immergé dans une situation. Non, c'est cette caméra-là, elle est signifiante. En tout cas, elle essaye de d'apporter un point de vue sur un truc. Elle n'est pas là, ce truc-là
pour créer,
est altéré.
Pour créer l'action.
Oui.
La caméra ne bouge pas pour créer l'action.
Oui,
en fait.
Oui, oui.
Elle l'accompagne au mieux. Dans Hit, par exemple, dans la séquence de fusillade, elle l'accompagne. Dans Révélation, typiquement, la caméra, quand elle bouge, c'est pas sur des séquences d'action. D'ailleurs, il n'y a pas de séquence d'action.
Une grosse, quoi. Ouais.
Voilà. J'en profite pour faire, du coup, notre. Transition, ce qui n'empêche pas de continuer de parler de tout ça justement, avec un documentaire qui vient de sortir sur Apple, sur Martin Scorsese. Il y a 5 épisodes, si j'ai pas de conneries. Cinq épisodes de 52 minutes. Donc une série documentaire sur la carrière de Martin Scorsese. Moi, ça m'intéresse. Justement, ça correspond pour moi à tout ce qu'on vient de raconter un petit peu. Martin Scorsese, on en avait dit suffisamment de mal en fait pendant longtemps, et je continue de penser hein, qu'il y a un paquet de films qu'il a fait dans les années 2000 qui moi me paraissent complètement aberrants. Mais il y a une série qui vient sortir sur Apple et qui m'a vachement réconcilié avec le bonhomme, qui m'a donné envie de revoir même les films de Scorsese, et donc je la conseille un peu à tout le monde. Donc la série s'appelle Mister Scorsese. Qui va suivre et qui prend le temps de suivre l'évolution de sa carrière depuis vraiment ses débuts. Le premier épisode, c'est vraiment son enfance. Le premier épisode se termine vraiment quand il va commencer en fait ses études de cinéma. Et ensuite, on va vraiment suivre l'évolution de sa carrière et son rapport au cinéma. Tout en ayant affaire à un bonhomme extrêmement honnête sur sa vie, sur sa conception du cinéma, sur son rapport avec l'économie du cinéma. On avait pu nous reprocher à Scorsese énormément de choses. Là, on revient par exemple dans le documentaire sur comment à la fin des années 70 et à la fin du Nouvel Hollywood, comment lui va pouvoir rebondir et continuer à faire ses films, les Raging Bull par exemple, dans les années 80, début 80, les Affranchis et tout un tas de choses qui en effet ne correspondent pas en fait à ce qui est attendu des producteurs ou des maisons de production, des gros studios, et qui malgré tout lui va réussir en fait à proposer des choses qui marqueront en plus le cinéma, qui reste aujourd'hui importante, même si on a que quelques objets. Moi je sais que on a dit tellement de mal du bonhomme, et je reste campé sur mes positions sur le fait que il a fait quand même un paquet de saloperies dans les 80, 90 et 2000, surtout 2000 d'ailleurs. Mais malgré tout, en fait, il y a des films comme Casino, par exemple, qui reviennent et tu dis putain, Casino, en fait, c'est un objet merveilleux qui représente et qui raconte beaucoup de belles choses. Et c'est dans ces derniers films, il y a des choses qui resteront, même si moi, en ce qui me concerne, les. Son dernier avec Pacino et De Niro,
Irishman.
Bon, je l'ai vu qu'une seule fois, faudrait peut-être que je le revoie, mais je pense qu'il est passé à côté de son sujet en fait, mais il y a comme d'autres films qu'il a pu faire. Mais le documentaire, lui, par contre, donne vraiment un portrait impressionnant, je trouve, d'une histoire énorme du cinéma, d'un homme qui a été capable justement de dépasser le Nouvel Hollywood, les années 80, les années 90 et les années 2000. Et en fait, c'est un portrait assez exceptionnel. Il y a peut-être que Clint Eastwood, en fait, qui a été capable de dépasser en fait toutes ces décennies, en fait, et d'avoir été capable de revenir et de continuer à faire des films. Mais ils sont, je pense, ils sont deux, trois maximum, ouais, en fait, à avoir été capable de faire ça. Et le portrait, sous forme de série, donc il y a ce format sériel qui est extrêmement efficace, on dirait du Netflix, qui permet de vraiment profiter vraiment de tout ça.
Ouais, moi j'ai adoré ça. Mais ça n'enlève rien, pareil, hein, que, aux réserves que j'ai sur le cinéma Scorsese, on en a déjà parlé. Et voilà, je suis toujours un peu dubitatif sur beaucoup de ses films, mais moi ça fait partie un peu des mecs comme PTA, hein, moi Scorsese, où ouais, je vais jamais rater aucun de leurs films, parce que de toute façon, il y a du biscuit à chaque fois. C'est clair et net, et il y a du génie, et ça je pourrais évidemment jamais lui enlever ça. Moi je lui reproche juste de s'abandonner, peut-être comme PTA d'ailleurs, à son propre génie de temps en temps. Et souvent,
s'abandonner à son propre génie, mais, c'est exactement ça, en fait.
Pour moi, il y a un peu ça chez Scorsese, hein, parce que même Casino, moi la dernière fois je l'ai revu en salle, en plus, je me disais, putain, c'est un film que j'ai vu plein de fois, et à chaque fois je me demande pourquoi je m'en rappelle jamais. Mais oui, je me dis, oui, je m'en rappelle jamais, parce que c'est pas un film qui fabrique des images, il fabrique de l'oubli, ça va trop vite, voilà. Mais voilà, je trouve que on l'a déjà évoqué, sûrement trop vite d'ailleurs, mais par contre, voilà, c'est le bonhomme, moi, à toute ma sympathie de toute façon, de base, parce que c'est un cinéphile hors pair. Je dirais jamais que voilà, son meilleur film, c'est Voyage à travers le cinéma américain. Ça serait vraiment de la mauvaise foi de le dire. Mais c'est vraiment...
L'homme a fait Taxi Driver et il sera reconnu pour l'éternité pour ça.
Oui, déjà, il a fait Taxi Driver. Et puis, il a fait, évidemment, pas que ça. Et d'autres films que je trouve vraiment très intéressants. Même le dernier, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, il y a des trucs qui me plaisent à fond là-dedans. Et moi, effectivement, comme les années 2000, c'est un peu comme toi, moi, Les Infiltrés, Shutter Island, Loup de Wall Street, et tout ça, c'est des films où je me dis, oh, la vache, c'est que des films qui ont connu un grand, grand succès. Moi, je vois les films, on les avait chroniqués à l'époque, et je me dis, oh, putain, c'est le pire du pire, parce qu'en fait ça raconte rien, ça se vautre dans sa propre virtuosité et tout ça, mais avec le recul,
rien, je serais plus
non, mais ça raconte des trucs, mais avec le recul je me dis, bah de toute façon c'était le haut du panier de cette époque là qui était déjà pas terrible, donc c'est le haut du panier, et il faudrait que je revoie Le Loup de Wall Street d'ailleurs. Mais en tout cas, pour ne parler que de cette série, effectivement elle a tout ce qu'il y a de plus classique et tout ça, mais n'empêche que ouais, la parole recueillie de Scorsese est vraiment sincère. On sait qu'il y a cinq vies, hein, dans le truc de Scorsese, vraiment. C'est vrai que c'est vraiment après de la critique standard de fabrique de documentaire standard, mais tu dis au moins les intervenants sont relativement bien choisis, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas Bono qui arrive là-dedans, comme dans le truc sur Morricone dernièrement, où d'un coup t'as Bono ou James Hetfield et tout ça qui disent un truc, on s'en fout. On sait que Scorsese, c'est important.
Sur John Williams, le
mec de Coldplay. Donc là, tu vois, c'est bien. Et puis, oui, j'ai eu du mal à aller me coucher quand j'ai commencé à la série, parce que c'est fascinant.
C'est ça,
et les images d'archives sont complètement folles.
Il y a une certaine rigueur, il y a une honnêteté totale. Dans les films, il y a le temps, surtout, ça fait plaisir, en fait, de dire, en effet, c'est une série et c'est monté comme une série avec des rappels à l'épisode précédent. Mais ça permet de prendre le temps, en fait, d'aborder. Moi, j'adorerais, en fait, avoir des séries comme ça sur des cinéastes, sur d'autres cinéastes, justement, en fait, quoi. Là, le fait est qu'il est encore vivant. Il y en a d'autres, des cinéastes qui sont encore vivants. Imagine la même série sur Eastwood ou sur d'autres gens, avec le même genre des intervenants, justement.
Noah Baumbach avait fait un truc sur De Palma.
Sur De Palma, qui était très bien.
Mais qui était bien, mais et après...
Là, t'as 5 heures, t'as 5 épisodes sur lui. C'est super. Moi, je suis ravi et je valide complètement ce genre de format. sans être fan de Scorsese, c'est un plaisir en fait d'avoir le temps d'accorder du temps. Alors, en effet, on a un épisode entier sur son enfance, très bien. Ça permet d'inscrire en fait le cinéaste dans une certaine condition et comment est-ce qu'il découvre le cinéma. Moi, ça m'intéresse vraiment. Et puis ensuite, vraiment sa construction de ses films. Et puis là, on parcourt du coup différentes décennies. C'est précieux presque comme documentaire. Sans être fan du cinéaste, moi je trouve ça précieux et je valide complètement. Et j'aimerais bien qu'il y en ait plusieurs sur d'autres cinéastes de la même manière en fait.
Ouais, non, c'est hyper intéressant. Je sais pas à qui ça s'adresse vraiment.
Je pense que c'est ce que je me demandais.
Mais bon, moi, c'est vrai que quand tu vois le truc, quand tu connais, c'est vrai que quand on te fait citer Katzenberg, Mikovits et tout ça, c'est des trucs qui vont parler à des gens qui connaissent un peu le cinéma américain ou du point de vue de l'industrie et tout ça, mais où tu dis, bah oui, mais c'est génial. C'est génial de voir l'évolution d'un cinéaste comme ça. Avant, à un moment, son interlocuteur, c'est Corman et Cassavetes, après c'est Mikovits et Katzenberg, après c'est Weinstein, après c'est. Voilà, et tu dis, ah putain, c'est fou. Et ça va. Oui, la parole est précieuse, ouais.
Et il est temps de nous quitter. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission, en plus en direct des bureaux de la direction de l'Arvor. Là, on est vraiment monté d'un cran.
On est au cœur du mal,
exactement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Canal B en podcast, bien évidemment. Et puis, retrouver le lien sur tous les sites que le docteur utilise depuis son bureau de la direction de l'Arvor.
Attends, moi, je ne travaille pas pour l'émission au cinéma. Je suis payé pour bosser pour l'Arvor.
Évidemment,
j'utilise mon temps de travail pour l'Arvor, pas pour le cinéma.
Et c'est merveilleux et tout le monde est ravi. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao.
Des bisous.
On your feet.
Let me help. I like her.
Yeah. Yeah, it's her.
I know.
You, James Taylor.
Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made were empty. I walked out this morning and I wrote down this song. Just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find
you sure this is a Phillips kid? They didn't switch it with the hospital or anything, did they?
I always thought that I'd see you again.
Yeah.
Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I see fire and I see rain. Seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again.